Dorian Evergreen, une nouvelle de Bernard Vialet. François-Régis Dautin, le présentateur vedette de la chaîne de télévision Channel 2, n'en peut plus de l'étrange petit bonhomme rondouillard assis en face de lui qui n'arrête pas de répondre à ses questions par une suite de sottises invraisemblables.
Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous me racontez, monsieur Evergreen? Vous osez affirmer que vous avez été fait prisonnier à la bataille de Pavie, en compagnie du roi François Ier.
Absolument. J'étais à l'époque un de ses valets de pied, comme on dit. Ah, c'était un grand roi, notre François. Un bel homme, bien planté, robuste et sportif. Pourquoi nous a-t-il entraînés dans cette Lombardie? Et qu'est-ce qu'ils ont mis comme temps pour apporter la rançon,
soupira le bonhomme.
Enfin, monsieur Evergreen, si vous étiez à Pavie, ça voudrait dire que vous avez environ 500 ans. C'est inconcevable, inimaginable.
Je suis même peut-être encore plus âgé que vous ne l'imaginez, François-Régis, fit l'autre avec un fin sourire. J'ai également assisté au supplice du dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, brûlé vif sur le bûcher de l'îlot aux Juifs, à la pointe de l'île de la Cité, sur l'ordre de l'abominable Philippe le Bel, sadique, faux monnayeur et mécréant s'il en fut.
C'est étrange. Vous en parlez comme si vous l'aviez connu,
remarqua le présentateur.
J'étais un intime de monsieur de Molay. C'était un des grands esprits de son temps. Un initié, un personnage hors du commun, sa mort fut un grand malheur pour l'humanité.
Sur le plateau de télévision de l'émission « Les coulisses de l'étrange », l'ambiance est électrique. Le standard saturé d'appels de téléspectateurs furieux qu'on les prenne pour des crétins, et d'autres qui veulent à tout prix connaître le secret de l'éternelle jeunesse de ce petit monsieur en redingote verte et gilet chamarré. La régie n'arrête pas d'appeler Dautin dans son oreillette pour l'aider à piéger Evergreen.
« Donc, si j'ai bien compris, vous êtes immortel. Vous venez tout bonnement nous l'annoncer à la télévision, et vous vous imaginez que les téléspectateurs vont vous croire. »
Pas du tout. J'ai un secret qui me permet de vivre plus vieux que mes contemporains, mais pas de vivre éternellement.
Vous avez donc fait un pacte avec le diable, comme Faust,
pensa le présentateur, pensant le coincer.
Non, j'ai simplement étudié, énormément étudié.
Et vous avez fait une découverte essentielle au sujet du processus de vieillissement humain.
Vous me permettrez de rester discret sur la question. Elle est beaucoup trop grave. Et puis, après tout, croyez-vous que ma vie soit à envier? Tous mes amis sont morts depuis bien longtemps. La vie moderne m'insupporte particulièrement.
Jingle. Page de publicité. Quelque part dans la capitale, Marc-Antoine de Charlus, obscur avocat au barreau de Paris, est vautré devant son poste de télévision. Il appuie sur une touche de la télécommande pour couper le son. Reste un bon moment songeur, puis attrape son portable pour appeler son vieux copain journaliste freelance, Arsène Furet. Il faut absolument le mettre sur le coup, avec son acolyte, le paparazzi Jacques, dit Coco Tardif. Charlus est certain qu'ils tiennent là un scoop aussi formidable que rémunérateur. Il suffit qu'ils arrivent avant que Dorian Evergreen ne quitte les studios du village de la communication, d'où l'émission est diffusée en direct, le file discrètement, et l'affaire est dans le sac. « Pas de problème, Charlus, lui répond-il. C'est comme si c'était fait. » Les coulisses de l'étrange se terminèrent dans la confusion la plus totale. Il fut vaguement question d'un élixir et d'un caisson hyperbare, puis sans transition, on passa à la séquence suivante, avec une sorte de fakir qui utilisait de grandes aiguilles pour se transpercer les joues et la langue. Finalement, l'émission se termina, par le numéro d'un contorsionniste qui peina à s'insérer dans une minuscule cage de verre. Il était temps d'éteindre le poste et d'aller se coucher. Le lendemain matin, tous les médias, presse, radio et télé, ne parlaient plus que d'Evergreen. « Escroc immortel !» titrait un journal. « Jusqu'où peut bien aller la télé-réalité ?» se scandalisait un autre, plus intellectuel. Les échos de la plaine se fendaient d'un magnifique article du Furet, intitulé « Quand la télé se moque du monde ». Après un court résumé de l'émission de la veille, le lecteur pouvait pénétrer plus avant dans l'intimité de l'étrange personnage. Il apprenait ainsi qu'il vivait dans un petit pavillon de banlieue à Montreuil, sans chauffage ni électricité, mais avec une vingtaine de chats. Chez lui, aucun appareil moderne, ni radio, ni télévision, pas même un réfrigérateur. Le mobilier datait d'un siècle ou plus, et son propriétaire n'aimait rien tant que de se vêtir, comme s'il était encore sous Napoléon III, jouer du piano et monter à cheval. Charlus referma le journal en se disant que ses amis lui devaient une fière chandelle. Le bonhomme était devenu une vedette des médias du jour au lendemain. Il se répandait dans de nombreuses autres émissions de télé ou de radio, sans jamais rien révéler de plus sur son secret. Jusqu'au jour où éclata le scandale de l'élixir de longue vie. Une publicité fut éditée dans les journaux télé avec la photo d'Evergreen et un slogan « Doublez ou triplez votre durée de vie en prenant chaque jour 3 cuillères à soupe de notre élixir ». La bouteille était facturée la bagatelle de 50 $, avec un certificat de garantie orné de la signature du charlatan de la télé. Bien entendu, il s'en vendut des centaines, peut-être même des milliers, tant la crédulité humaine est grande et son désir de jouissance toujours plus insatiable. L'ennui, c'est qu'un petit vieillard en fit une cure et décéda au bout de 3 semaines. La famille porta plainte pour escroquerie et abus de faiblesse. Sans enquête préliminaire vraiment sérieuse, le juge d'instruction plaça Evergreen en détention provisoire, et c'est là que Maître Charlus intervint. Sa défense fut des plus simples. Evergreen n'était pour rien dans la vente de cet élixir. Elle ne lui avait rien rapporté. Un autre escroc s'était servi de son nom et de son image pour vendre sa potion à des naïfs. Une enquête rapide permit d'ailleurs de découvrir qu'Evergreen n'avait pas menti. L'élixir, qui, après analyse, se révéla n'être qu'un simple distillat de menthe, thym et verveine, était fabriqué en Chine et exporté par une société anonyme, basée aux îles Caïmans. Il ne fut guère difficile à l'avocat d'obtenir la relaxe pour son client. Mais le mystère restait entier. Quel était le secret de cet homme? Avait-il vraiment vécu aussi longtemps? Comment cela était-il possible? Evergreen invita plusieurs fois Charlus à Montreuil pour des dîners aux chandelles. Il réussissait fort bien des recettes un peu désuètes de son antique cuisinière à Bourg. Selon lui, il devait sa nécessité à une hygiène de vie très stricte. Il se disait végétarien, comme les pythagoriciens et les yogis, commençait toutes ses journées par un jus d'herbe de blé ou d'orge, le frais élixir, pratiquait l'oxygénation, le yoga et la méditation. Il avait été initié à toutes ces techniques par de grands sages hindouistes et avait l'air de s'en porter fort bien. Il ne se déclarait pas immortel, mais plutôt d'une longévité exceptionnelle. Et puis j'ai eu d'illustres prédécesseurs, Cagliostro, Joseph Balsamo, ou le comte de Saint-Germain, ainsi qu'Highlander au cinéma, mais tout cela n'est que de la fiction.
20 ans passés. Un soir, Evergreen, sur lequel le temps semblait n'avoir nulle prise, appela son avocat au téléphone. Ce dernier ne reconnut pas sa voix. C'était celle d'un grand malade. Une sorte d'agonisant se précipita à Montreuil pour se trouver face à un individu ridé, courbé en deux, amoindri, amaigri. Il était devenu totalement méconnaissable.
« C'est la fin, Charlus, lui dit-il. J'en ai plus bien longtemps. »
Une violente quinte de toux s'empara de lui. Il se laissa tomber dans un fauteuil et s'éteignit très vite dans un dernier spasme. Evergreen n'était donc pas immortel. Mais avait-il vraiment vécu aussi longtemps qu'il l'avait prétendu? Sans doute allait-il emporter son secret dans la tombe. Charlus en était là de ses réflexions, quand, se tournant vers le fauteuil, il eut la stupéfaction de ne trouver à la place de son cadavre qu'un tout petit tas de sang. 15 jours plus tard, un certain Ettore Pozzolongo apparaissait dans une émission de la RAI. Il déclarait avoir été au camp du Drador avec Charles Quint et au pont d'Arcole parmi les impériaux bousculés par Bonaparte. Le plus étrange, c'est qu'il ressemblait trait pour trait à Dorian Evergreen.